le modèle général de l'entreprise, c'est le modèle absolu, c'est-à-dire toute organisation, toute institution, toute relation humaine et même toute subjectivité doit s'ordonner finalement à l'entreprise jusqu'à proposer aux élèves de devenir, mais à tout le monde, de devenir des entreprises en elles-mêmes, des entreprises de soi, avec des grandes catégories structurantes comme celle de capital humain qui sont tout à fait essentielles. Et puis, d'autre part, comme mode de régulation, comme norme de régulation, la concurrence. Non pas donc forcément la marchandisation au sens strict du terme, mais la logique du marché qui est la logique de la concurrence comme modèle de réorganisation et de régulation des systèmes publics et en particulier des systèmes scolaires. Donc, par rapport à ce film, il faut ajouter tout un chapitre, si je puis dire, qui est celui de la stratégie néolibérale. Alors, l'Europe, deux mots là-dessus, l'Europe joue un rôle essentiel, mais pas très innovateur, si je puis dire, c'est que l'Europe a fait du copier-coller par rapport à des grandes organisations internationales qui ont vraiment élaboré le nouveau paradigme scolaire. Je pense en particulier à l'OCDE, qui là a joué un rôle beaucoup plus important sur le plan, je dirais, théorique. L'Europe a repris ce discours, repris ce paradigme, mais l'Europe a joué un rôle pratique, opérationnel, extrêmement important que l'OCDE, par exemple, ne pouvait pas jouer auprès des États nationaux. Et les États nationaux ont évidemment été non pas soumis à un diktat européen, ça c'est une image qu'il faut laisser à d'autres. C'est au contraire une formidable contribution, collaboration, coopération des États nationaux avec les instances européennes pour définir la stratégie de Lisbonne, qui est là pour le coup déterminante, et des outils techniques opérationnels pour modifier et uniformiser les systèmes scolaires, en particulier la méthode de coordination ouverte, qui est, je dirais, une méthode managériale qui vise à harmoniser les politiques éducatives en fonction de critères quantitatifs, de benchmarks, etc. Bon, ça serait un petit peu long à expliquer, mais justement, les livres l'expliquent. Et je vois qu'Angélique a un très très bon bouquin qui vient de sortir, qui s'appelle L'école en Europe à la dispute, et qui est sous-titré Politique néolibérale et résistance collective. C'est une comparaison systématique des politiques néolibérales en Europe depuis 20 ans. Donc c'est un outil absolument essentiel pour comprendre non seulement la politique européenne elle-même, qui est résumée dans le chapitre 2, mais pour comprendre comment cette politique européenne a déterminé les changements dans les différents États. Alors cette politique européenne, donc, avait des outils, elle a une ligne directrice qui peut être résumée de façon extrêmement simple par le fait qu'il s'agit de soumettre l'ensemble du système éducatif, depuis la maternelle jusqu'à l'université, à ce que l'on peut appeler la norme de l'employabilité. Nous sommes passés, et c'est pour ça que c'est une grande mutation, comme j'ai intitulé un livre, la grande mutation, c'est que nous sommes passés, et nous passons progressivement, d'une école qui était ordonnée à un idéal d'émancipation, qu'on l'entende de façon différente à la républicaine ou à la socialiste ou à la gauchiste, peu importe, mais l'idéal d'émancipation était, je dirais, l'idéal régulateur de nos systèmes éducatifs publics, à un autre système qui est régi par une norme qui est la norme de l'employabilité. D'où la question des compétences. Les compétences ne sont qu'une déclinaison pratique de cette norme de l'employabilité, récupérant en chemin tel ou tel discours pédagogique, etc., c'est-à-dire le subsumant, le subordonnant à un axe majeur qui est celui de l'adaptation au marché de l'emploi et à ses transformations, et plus encore au façonnage, en quelque sorte, d'une nouvelle force de travail correspondant aux impératifs du capitalisme d'aujourd'hui, d'un capitalisme donc très mouvant, effectivement, et qui est lui-même soumis à une logique, à des logiques financières que vous connaissez. Donc, c'est cela la philosophie de l'Europe, et ce que nous sommes en train de ce dont nous parlons aujourd'hui, des compétences, ne sont que, si je puis dire, un aboutissement pratique extrêmement important et sur lesquels il faut agir tactiquement, bien entendu, mais qui ne sont qu'une des pièces d'une transformation globale. La question technique, pour les 2 minutes qui me restent, la question technique, technologique est là aussi très importante parce que, en effet, il s'agit de mesurer les unités d'employabilité qui seront acquises par les élèves. Donc les dispositifs d'évaluation sont essentiels, mais les dispositifs d'enregistrement de ces compétences sont tout aussi essentiels. Et je dirais les outils de benchmarking des compétences pour évaluer les productions de compétences des enseignants, des écoles, des collèges, etc., est tout aussi importante. C'est-à-dire que les outils qui se mettent en place aujourd'hui, sur lesquels je compte, je voudrais travailler, les espaces numériques de travail en particulier, sont des outils qui vont permettre une standardisation du travail enseignant et un contrôle sur la production, parce qu'il faut parler comme ça maintenant, un contrôle de la production du capital humain qui est absolument nécessaire dans la constitution de cette école-entreprise. Par ailleurs, on voit également que c'est un outil d'imposition, d'injonction et de transformation du métier enseignant qui est totalement sous-estimé aujourd'hui par les organisations professionnelles, que j'essaye d'alerter le plus possible sur la question, mais avec de grandes difficultés. J'ajoute un dernier mot, et un peu une critique par bon film, c'est qu'aujourd'hui, il ne s'agit pas seulement de dire qu'un méchant capitalisme est en train d'agresser l'école. Il faut bien se rendre compte que les mutations qui ont eu lieu et qui ont eu lieu sont portées aussi bien par la droite que par la gauche. Et aujourd'hui, quand il s'agit des outils à mettre en œuvre, des outils technologiques, au niveau des départements et au niveau des régions, c'est beaucoup plus la gauche qui le fait que la droite. Je pense en particulier à ce qui se passe pour la région parisienne, la région Île-de-France plus exactement. La région Île-de-France est en train de mettre en place un dispositif donc d'espace numérique de travail généralisé qui s'appelle un dispositif Lili et qui mérite le détour. C'est le dispositif donc de l'informatique dans les lycées. Lili, informatique, lycée, je ne sais pas comment ça veut dire, avec un E à la fin. Donc un nom charmant pour enrober. Quand vous entendez Lili, vous savez que déjà on vous enrobe et on vous enfume. Hein. Donc je vous conseille d'aller voir le site de Lili. Vous y verrez, une sorte de grande dégoulinade démagogique sur ce que sera l'école utopique de demain, c'est-à-dire que vous avez une version illichienne, si je puis dire, d'une école sans mur, d'une école parfaitement transparente, une école totalement déstructurée et où il n'y a que des copains. Donc vous avez là une école de la connectique généralisée, c'est-à-dire une utopie qui a longtemps été une utopie de gauche et d'extrême gauche, et qui est aujourd'hui une utopie qui est mise en œuvre par, justement, une gauche officielle, gouvernementale, etc., mais avec, évidemment, l'appui enthousiaste des forces de droite, et qui, précisément, vient apporter une des pièces essentielles de la construction de l'école entrepreneuriale et managériale qui se met en place. J'ajoute que, pour évoquer un texte que j'ai fait pour l'appel des appels, cet aspect d'école entreprise, école managériale, a aussi son volet sécuritaire sur lequel vous travaillez, qui est essentiel, c'est qu'évidemment, aujourd'hui, le management qui se met en place est un management disciplinaire qui vise à contrôler à la fois les professionnels, à réduire leur autonomie le plus possible, à entrer dans j'utilise le langage managérial, à entrer dans la boîte noire de la classe, qui est insupportable aujourd'hui aux responsables, aux administrateurs et aux experts. C'est insupportable et antidémocratique qu'il y ait une quelconque boîte noire, et entrer dans la boîte noire par des outils de visibilité qui évoquent peut-être Orwell, mais très certainement en tout cas Jeremy Bentham et son panoptique. Mais en fait, quel est le travail que nous devons faire? C'est de comprendre que des mots ont des portées et des valeurs stratégiques, et de comprendre le contexte dans lequel ces mots sont utilisés, et pas de les prendre justement en rapport avec des pratiques pédagogiques qui n'ont rien à voir avec ce dont nous parlons. Nous ne parlons pas des compétences transmises en cours d'histoire et géographie, ou en cours de philosophie, ou en cours de n'importe quoi. Ce n'est pas cela dont nous parlons. De quoi parlons-nous? Nous parlons du fait qu'un certain nombre d'économistes, je dis bien d'économistes, des économistes, pas des pédagogues, des économistes, dans un certain nombre de lieux, que ce soit à l'échelle nationale ou internationale ou intergouvernementale, ont décidé de modifier profondément les systèmes éducatifs. Ils ont appelé ça le nouveau paradigme de l'école. Voilà. Et j'en ai donné quelques éléments. le nouveau paradigme de l'école, c'est-à-dire une nouvelle signification de l'institution scolaire et de ses objectifs et de ses buts. Bon, voilà, c'est ça dont nous parlons. Et à ce moment-là, le terme compétence n'est pas le terme qu'on pourrait utiliser ici ou là, chez son médecin ou chez son avocat. Non. Le mot compétence veut dire quelque chose d'extrêmement précis. C'est un des éléments de rationalisation et de standardisation de l'entreprise éducative aujourd'hui, dans le sens de la formation du capital humain et dans l'imposition de la norme de l'employabilité. Et ce qui est nouveau, qu'est-ce qui est nouveau ? C'est que bien sûr l'école a toujours été au service du capitalisme, ça on peut toujours sortir des grandes vérités comme ça avec un C majuscule ou un K majuscule si on veut. Bon, on peut toujours dire des choses. Mais qu'est-ce qui est nouveau ? Voilà, ce qui est nouveau et pourquoi nous sommes dans une école capitaliste, de plus en plus purement capitaliste, c'est que jusque dans la classe, jusque dans le geste pédagogique, jusque dans le discours que l'on est en train, que l'on utilise et qui structure nos actes éducatifs, jusque donc dans l'acte pédagogique élémentaire, eh bien, nous sommes en quelque sorte saisis, pétrifiés par cette rationalité économique. Et je pense qu'une des clés de la réussite de cette stratégie néolibérale, c'est précisément le fait qu'ils ont magnifiquement su jouer sur les homonymies, les synonymies, sur tout ce que vous voulez, et que ils sont entrés dans l'école, ils sont entrés dans le discours professionnel, dans le discours syndical, ils sont entrés dans, je dirais, la professionnalité, en utilisant les mots de la profession, d'une partie de la profession, et qu'ils ont réussi à remodeler de l'intérieur la profession enseignante en utilisant des mots, en justement, sans faire la distinction entre ce qu'un professeur d'histoire et géographie peut appeler compétence et ce que les économistes qui dirigent maintenant finalement le discours économique appellent compétence. Et quel est le lieu même de la confusion ? C'est ce qui s'appelle le socle de compétences de base. Parce que ce socle-là, il faut quand même se souvenir que ce socle a été défini non pas par des considérations pédagogiques quelconques, mais précisément par des impératifs économiques. C'est tout. C'est ce qui arrive dans la classe à l'instituteur ou au professeur de collège. C'est la déclinaison d'un impératif économique. Point barre. Nous n'avons pas à sortir de ce discours-là. Voilà. Nous n'avons pas à sortir de ce discours-là. Et nous avons à dire aux collègues qui croient qu'ils font de la pédagogie en faisant le socle de compétences, qu'ils font de l'économie et pas autre chose. Et que ce qui est en train de se passer, c'est que tout enseignant désormais est un rouage d'un dispositif qui est exclusivement économique. Alors, évidemment, l'enseignant, lui, va continuer à croire qu'il fait de la pédagogie, alors qu'en fait, il est déjà pris dans une rationalité économique et que tout ce qu'il est en train de faire, en fait, n'a de valeur qu'économique. L'économie de la connaissance, c'est quoi ? L'économie de la connaissance, ça veut dire que la connaissance est économique. Ça n'a que cette signification-là. Et donc, c'est là l'opération de remodelage complet de la chose. Alors donc, n'essayons pas de dire que l'école ancienne était ceci, cela, etc. Nous sommes en transition. Peu importe que nous aimions ou pas l'école ancienne. D'une certaine façon, ce chapitre est clos, historiquement clos. Maintenant, quand on envisage le futur, puisque la question a été posée, moi, il me semble qu'il y a des éléments extrêmement positifs dans l'école ancienne. Je veux dire, moi j'ai publié, je ne sais pas si vous le savez, je ne l'ai pas cité, mais j'ai publié une anthologie des écrits de Jaurès sur l'école, avec Madeleine Rébériou. Eh bien, je vous assure que Jaurès, il avait cette idée-là, c'est que dans l'école de la République la plus bourgeoise du monde, selon lui, il y avait quand même des éléments qui pouvaient être mis au service, transformés bien sûr, mais mis au service des enfants du peuple dans la nouvelle école populaire et socialiste de ses voeux. Donc je pense que nous n'avons pas à dire le passé est condamné. Je veux dire, l'école humaniste, nous n'avons rien à en faire. Nous avons, je pense, à en tirer un certain nombre de substances, évidemment pour une perspective très différente de société.